Direct en jeu, la radio insolite. Soyons toujours positifs. Et là, je vais être positif avec François. On va parler du diable. Je l'ai bien fait, un diable. Hein. Bonjour François.
Bonjour Alain.
Ouais, j'attaque un peu fort là. C'est... Alors, attention, c'est du sérieux parce que la pièce s'appelle Mephisto Valse. Alors, j'ai bien aimé quand même la notion de valse. Je ne connais pas cette nouvelle valse. C'est un nouveau concept que tu lances?
Alors, pour répondre de façon la plus précise possible, Mephisto Valse, c'est au départ une œuvre de piano composée par Franz Liszt, qui évidemment évoque le diable. Mmh. Et j'ai eu moi-même une petite formation pianistique dans mon jeune temps. Et le fait de parler un petit peu du personnage étrange de Mephisto m'a fait penser à ça. Donc la musique de Franz Liszt va nous accompagner tout au long du spectacle, au départ. Mmh. Mais il n'y a pas que ça.
D'accord. Avant de parler du spectacle, on peut parler de toi un peu parce que tu as un parcours assez varié et assez riche. Tu es tombé dedans quand tu étais petit, quasiment.
Ben, j'ai toujours été très attiré par le théâtre, mmh. Mais j'ai commencé pourtant assez tardivement. J'ai commencé par faire du théâtre dans une aumônerie de lycée.
Ah oui.
En région parisienne. Mmh. Sur des spectacles qui alors faisaient référence, alors que je suis pas croyant, à des spectacles hein, qui faisaient référence à la Bible ou à la vie de Jésus. Mm-hmm. J'ai commencé comme ça. Ça m'a permis de rencontrer du monde, de goûter le plaisir des planches, mm-hmm. Et mon désir de faire du théâtre a commencé à se développer à ce moment-là. Et ensuite. J'ai fait un conservatoire de région à Créteil, en région parisienne, pendant 3 ans, donc un conservatoire de comédien. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de descendre sur Avignon, qui est évidemment la patrie du théâtre.
D'accord, exactement.
Et quand je suis arrivé sur Avignon, j'ai fait du théâtre avec une personne qui s'appelle Catherine Dorin. Pendant quelques années, toujours en tant que comédien, j'ai fait un tout petit peu le conservatoire d'Avignon. Mmh. Et puis ensuite, j'ai eu mes enfants.
Ah, ça, c'est important, ça.
c'est important. Donc, j'ai dû mettre ça un petit peu entre parenthèses. Et au début des années 2000, je suis lancé dans de l'autre côté de la barrière en tant que metteur en scène. Mmh. Puis je fais de la mise en scène aussi depuis plus de 20 ans avec deux troupes, une troupe amateur qui s'appelle La Tour de Rôle, qui est basée sur Morières, Les Avignons, dans le Vaucluse. Mmh. Et puis, donc ça, c'était la compagnie amateur. Et puis, il y a 10 ans, création de ma compagnie professionnelle, Artali Compagnie, avec laquelle nous en sommes à notre 4e création avec Mephisto. Il y a eu d'abord une comédie musicale que j'ai écrite et mise en scène, qui s'appelle À Montmartre cette année-là. Donc ce spectacle, nous avons pu le donner pendant quelques années, mais avec les moyens du bord, mm-hmm. Parce qu'il y avait 11 comédiens en scène, avec la complicité de mon ami compositeur Éric Breton, qui est basé sur Villeneuve-les-Avignon. Ensuite, un petit peu après, nous avons fait la création de Jeu de scène, une pièce de Victor Haïm, avec 2 comédiennes. Et puis le un petit peu plus récemment, un texte de Gérard Gélas, ancien directeur du théâtre du Chêne Noir, Lettre à Monsieur le futur président de la République, que nous avons joué donc avec un comédien seul en scène qui s'appelle Franck Etena, et ce spectacle nous l'avons donné au Festival d'Avignon en 2018. Voilà. Et ensuite, pour terminer l'aventure et pas faire trop long. J'ai eu l'occasion de jouer dans une des dernières créations du Chêne Noir, Le Jeu du Président, écrit par Julien Gélas et mis en scène par Gérard Gélas au Festival d'Avignon en 2022. Voilà, un petit peu pour vous retracer mon parcours artistique jusqu'à maintenant. Et donc, Mephisto Valls est arrivé pendant le confinement.
D'accord. Et c'est là où tu as dit, tiens, je vais utiliser mes relations familiales pour capter. Et c'est là où tu as capté ta sœur.
Oui, c'est ça.
Je l'ai fait comme ça. J'ai eu le
Voilà,
sentiment
voilà.
quelque part. Tu lui as dit, je te laisse le choix entre dire oui et oui. C'est bien ça.
C'est un petit peu ça. Il faut savoir que donc voilà, l'écriture de cette pièce qui me titillait depuis longtemps est arrivée pendant le confinement en 2020. Et au départ, je n'avais pas du tout prévu de jouer dans cette pièce-là. Je l'avais écrite et je souhaitais la mettre en scène. Mais on a eu beaucoup d'aléas. Je passe les détails et
D'accord.
à un moment donné, il était évident que je ne pouvais pas en même temps faire la mise en scène et être comédien du spectacle.
D'accord.
C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On manque de recul si on n'est pas même, si on n'est pas soi-même, soit d'un côté, soit de l'autre.
Exactement, tout à
Et
fait.
il n'y avait pas 50 personnes à qui je pouvais demander ça, parce que ça remet en cause beaucoup de choses. Notamment mon écriture et ma sœur Geneviève, qui est donc une professionnelle qui a fait de la musique, qui fait de la mise en scène depuis plus de 30 ans, m'a dit, bah écoute, j'ai lu ton texte, j'ai lu ta pièce, et si je viens, je vais bouleverser pas mal de choses, notamment au niveau du texte, des intentions, etc. C'est ce que je lui demandais de toute façon.
D'accord.
Et il se trouve que c'est notre première collaboration artistique, parce qu'elle est basée en région parisienne et moi sur Avignon, ce qui, la distance favorise pas forcément les choses, et
D'accord.
pourtant nous y sommes pas.
Ah, je t'ai perdu là.
Non, non, je suis toujours
Ah,
là.
pardon, ça y est, c'est revenu.
J'ai juste terminé ma phrase.
D'accord. Est-ce que c'est plus facile d'écrire ou de jouer?
Pour moi, c'est plus facile d'écrire. Parce que jouer demande constamment des remises en question quotidiennes. Ça ne veut pas dire que l'écriture ne
D'accord.
l'est pas. Ça ne veut pas dire que l'écriture ne l'est pas. Mais je me sens plus à l'aise, moi, derrière mon ordinateur ou derrière un stylo, en tout cas sur ce projet. Sur ce projet. Parce qu'il faut quand même savoir que jouer son propre texte, c'est très déstabilisant.
Ah, c'était la question suivante que j'allais te poser.
Et voilà. C'est très déstabilisant de se retrouver à interpréter son propre texte. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle je souhaitais au départ me mettre en retrait par rapport à ça. Maintenant que je suis dedans, il fallait que j'arrive à trouver ce personnage. Et en cela, ma sœur Geneviève a été d'un secours très important pour me permettre de non seulement de trouver confiance, de retrouver la confiance dans le jeu, mais de pouvoir me libérer et de lâcher prise au niveau complètement de la mise en scène. Parce que c'est aussi très difficile quand on se retrouve comédien de son propre texte, de lâcher prise sur sa mise en scène. Il y a beaucoup de méandres psychologiques dans tout ça, donc c'est un long chemin de construction et d'acceptation de déverrouiller certaines portes pour permettre la réalisation du global du projet dans son ensemble avec tous les comédiens, avec les trois autres comédiens qui nous accompagnent dans cette aventure.
D'accord. Si je ne dis pas de bêtises, c'est écrit en alexandrin.
C'est vrai.
Alors,
Oui.
juste pour les auditeurs, parce que moi j'ai quand même regardé, qu'est-ce que c'est que l'alexandrin?
Alors, l'alexandrin, c'est un type d'écriture qui avait été adopté au XVIIe siècle. Quand on parle de Racine, de Corneille, de Molière, eh bien certaines de leurs pièces étaient écrites en alexandrin, c'est-à-dire les alexandrins sont des vers qui riment deux par deux. Ils ont 12 pieds. Ils ont 12 pieds. On peut appeler ça peut-être 12 syllabes si on veut simplifier un petit peu les choses. Donc c'est une écriture un petit peu particulière. Et au départ, que ce soit Racine ou Corneille, c'était 2 fois 6 pieds, c'est-à-dire 2e vestige de 6 pieds, avec une sorte de musicalité dans le verbe un peu particulière. Molière a commencé à modifier un petit peu tout ça en faisant intervenir parfois plusieurs protagonistes, pardon, sur un seul vers. Et mon idée a été de me dire, est-ce qu'on peut, au XXIe siècle, continuer à écrire en alexandrin
Et oui, tout à fait.
tout en proposant une histoire qui soit dans la modernité et sans casser le rythme, tout en respectant, je dirais, l'étymologie des vers, tout en faisant en sorte que le spectateur s'en aperçoive à peine. Donc l'idée, c'était un petit peu ça. Et ça m'est venu parce que je suis un aficionados de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand,
D'accord.
pour que c'est un pur chef-d'œuvre, et il a réussi à faire quelque chose, donc lui aussi en alexandrin, mais en parlant d'une époque aussi, je dirais pas surannée, mais des siècles un petit peu précédents, un petit peu toujours en faisant référence au XVIIe siècle. Et la plupart des pièces d'aujourd'hui qui sont encore écrites en alexandrin, puisque je suis pas le seul, bien heureusement, elles font pratiquement toute référence au XVIIe siècle. Et moi, je voulais quelque chose qui se passe aujourd'hui.
D'accord.
Donc, c'était un petit peu le pari de départ. Donc, il y avait ça. Et puis, j'ai eu l'occasion de voir aussi une pièce au Festival d'Avignon il y a quelques années, qui était presque écrite en alexandrin et que j'avais trouvé absolument admirable. C'était un spectacle qui s'appelle M comme marquise. Et donc je me lance dans l'aventure. Voilà. Donc au départ, un peu fou, et qui ensuite a été confronté au travail de plateau qui fait qu'il y a eu beaucoup de réécriture depuis le premier envoi, le premier jet des vers en 2021.
Je me suis demandé si ça faisait pas un peu penser à un spectacle poétique.
Je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que je pense que la poésie est faite pour être lue. L'alexandrin, il est fait pour être joué.
Ah
Et
d'accord,
pour
ok.
moi, ce sont deux choses complètement différentes. C'est difficile de répondre à cette question, mais je pense que enfin, de mon point de vue au niveau de l'écriture, je pense que c'est vraiment, même s'il y a une musicalité, l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que ça défile tranquillement, tout seul,
D'accord.
que le spectateur puisse à peine s'en apercevoir.
D'accord. Ok, c'est une expression. Le spectacle se joue en ce moment, il va se jouer. Est-ce qu'il va falloir attendre le mois de juillet pour le voir? Comment ça se passe?
Alors, le spectacle a été créé au mois de novembre dernier. Les deux premières représentations ont lieu au mois de novembre. Il n'y a pas de représentation pour le moment. Il faut savoir qu'on est un petit peu dispersé, c'est-à-dire qu'il y a une des comédiennes qui est basée sur Paris, qui tourne beaucoup. Donc, c'est un petit peu difficile. Donc, notre idée était évidemment de faire le Festival d'Avignon qu'on va faire cet été au Théâtre de l'Étincelle.
D'accord.
Et donc les prochaines représentations seront notre principale vitrine pour parler et développer ce spectacle.
D'accord. Ok. Donc bah, c'est tu commences quand? Parce que je sais qu'il y en a qui commencent le 29 juin, d'autres le 30 juin, même si le festival
Alors,
démarre le 3 juillet,
on
officiellement.
va commencer, le 29 juin. On va commencer le 29 juin, on va faire toute la durée du festival. On fera juste relâche le lundi, puisqu'il faut, voilà, un jour par semaine, et
D'accord.
il n'y aura pas de représentation non plus le dimanche 7, étant donné que notre comédienne parisienne sera aussi à un autre spectacle à l'autre bout de la France.
Ok. C'est important à préciser, je le précise à chaque interview, je demande bien la date, parce que c'est vrai qu'officiellement, c'est censé démarrer le 3 juillet, c'est censé finir le 21 juillet. Alors, tout le monde finira le 21 juillet, évidemment, mais il y en a beaucoup qui vont démarrer plus tôt, parce que justement, c'est l'occasion de pouvoir aussi avoir un festival plein. Et puis, ça fait un peu tour de chauffe, ça fait un peu général, donc c'est toujours très, très bien de le faire.
Pardon, je précise quand même que notre horaire, ce sera à 10 minutes près, parce que ce n'est pas encore tout à fait calé. Ce sera à 13h20. 13h20.
D'accord, donc il vaut mieux avoir déjeuné avant de venir, quoi.
Oui, ou peut-être après. On vient un petit peu à l'heure espagnole au mois de juillet
Ah
sur
bah, y a pas de
Avignon.
problème. Avec des conditions météo, à l'heure espagnole aussi, comme on dit.
Ah, c'est possible, hein, c'est possible.
Question traditionnelle que j'aime bien poser. Quel est ton rêve?
Ah,
C'est marrant, j'ai toujours la même réponse.
c'est difficile de parler, de faire vivre ce spectacle pour commencer et
Oui.
peut-être d'avoir la chance avec la vitrine qu'on aura au mois de juillet, de trouver non seulement des programmateurs, mais également une production qui nous permette de nous consacrer à 200% sur l'artistique, parce que ce serait quand même un confort et une belle récompense si on arrivait à ça. Et puis, tout simplement, mon rêve, c'est de continuer à vivre de ce que je fais, dans l'écriture de pièces, dans le jeu, et puis beaucoup dans la mise en scène, parce que je suis beaucoup tourné vers ça depuis 20 ans, et c'est dans ces domaines que je me réalise. Donc, si je peux continuer à faire ça, et puis à en vivre décemment, c'est tout ce que je demande.
Eh bien, écoute, je trouve que c'est une réponse qui est très juste et très bien. On rappelle où est-ce que ça joue, à quelle heure ça joue, et est-ce qu'on peut déjà réserver ou est-ce qu'on attend tranquillement le mois de fin juin?
Alors, pour les réservations, je pense que c'est un petit peu tôt. On est en train de construire un petit peu tout ça. On va voir si on fait un lien ensuite avec des organismes de réservation. Il
D'accord.
faut savoir que c'est notre premier, enfin la compagnie fait son premier festival.
D'accord.
Donc c'est un petit peu compliqué. Il faut donc on travaille avec Dominique, l'autre, on travaille avec des gens qui nous soutiennent. Mais pour le moment, en termes de réservation, ça se fera de toute façon directement par téléphone auprès du théâtre le moment venu. Mais je peux pas en dire plus pour le moment. Hein, c'est
D'accord,
un
mais
petit peu
c'est bien parce que ça veut dire
compliqué.
qu'il y a un projet qui se construit et puis ça permet aussi de l'expliquer comme tu l'as très bien fait, de dire que ce n'est pas, il n'y a pas que le spectacle, il y a aussi tout ce qu'il y a autour et ça c'est important aussi.
Ah oui, bien sûr. C'est énormément de travail au-delà de ça. Et il faut qu'on construit une équipe petit à petit. Et effectivement, il n'y a pas que la notion d'artistique, il y a des gens aussi qui nous accompagnent autour. On a un régisseur qui nous a accompagnés depuis le début aussi, qui s'appelle Vince, et qui sera là avec nous cet été. On a quelqu'un qui s'occupe également de nous suivre au niveau du son, puisque l'univers de Mephisto, peut-être qu'on va rentrer un petit peu plus dans l'histoire du spectacle après. On a un univers musical, non seulement autour de Franz Liszt, mais également autour de Charles Gounod, qui a écrit son opéra Faust. Et donc tout ça rentre aussi dans l'accompagnement musical, et on a Bennett qui nous aide aussi pour tout ça. Et puis évidemment les trois comédiens qui m'accompagnent dans le jeu, dans cette création.
J'espère que ça vous donne envie d'aller faire un tour dès fin juin pour aller voir donc ce spectacle, Mephisto Valse. Et puis ça montre bien aussi, bon, comme j'ai démarré en parlant du diable, il n'y a pas que le diable, il y a aussi tout un univers assez sympathique. Tu voulais dire?
Oui, alors trois comédiens qui m'accompagnent dans le jeu. Donc, Julie Costanza, qui joue le rôle d'Anna dans le spectacle, qui est donc basée à Paris. Il y a Camille Monnet qui joue le rôle de Mephisto dans le spectacle, et Sylvie Pellegry qui joue le rôle de Dessie, personnage à découvrir un petit peu plus tard dans le spectacle. Si on peut revenir juste 2 minutes sur le pitch du spectacle, en quelques mots, je précise que c'est une... Pour bien préciser le genre à tous vos auditeurs, c'est une comédie baroque. Parce que même si on parle de Méphisto, il s'agit d'une comédie et surtout pas d'une tragédie. Même si elle est écrite en vers, je pense que c'est important à souligner parce qu'on est dans l'étrangeté, on est peut-être un petit peu, mais ça, ce sera au spectateur de le découvrir quand il viendra voir le spectacle. Mais c'est un univers un peu décalé, un univers un petit peu décalé, peut-être un peu surréaliste. À voir, un auteur a du mal à écrire sa pièce et il présente à sa compagne les premiers vers de son nouvel ouvrage. Et sa compagne est un petit peu surprise par le ton qu'il emploie, puisqu'il fait parler, dans ses premiers vers, il fait parler la mort. Donc, il se chamaille, mais tout ça de façon très légère, et intervient un individu qui sortit de nulle part, qui débarque chez eux. On ne sait pas d'où il vient, et il prétend être le diable en disant, voilà, moi, t'as parlé de la mort, ça me plaît pas, t'en as ras-le-bol de ta vie, eh ben écoute, je viens te chercher parce que moi j'ai un problème démographique à régler, il y a beaucoup, beaucoup trop de naissances par rapport aux décès aujourd'hui dans le monde. Il faut que je comprenne l'évolution démographique. Voilà un petit peu le pitch du spectacle et comment et notre auteur Alex va penser que sa compagne lui fait un petit peu une blague en essayant d'inspirer la suite de son ouvrage. Voilà un petit peu comment commence le spectacle.
Mais très bien. Mais écoute, moi je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous faire découvrir tout cela. Ça donne envie d'aller
Voilà.
découvrir d'une manière un peu plus concrète ce spectacle. Et puis voilà quoi. Ok.
Eh ben, merci infiniment, Alain, pour ton écoute et en espérant que ce spectacle plaira à tous ceux qui auront l'occasion de venir le voir.
Exactement. Merci à toi.
Merci bien, au plaisir.